c'est bon pour la santé.
Bonjour, ici Camille Tchaï en compagnie de mon cher co-animateur François Baruel qui a été médecin en France. Bonjour François.
Bonjour Camille.
Comment tu vas?
Très bien et toi?
Ben très bien et encore plus parce qu'on est ici ensemble pour une nouvelle saison de C'est bon pour la santé où il nous tient toujours à cœur, hein, François, de nous informer sur ce qui passe, sur ce qui se passe au niveau de la santé, que ce soit au niveau physique ou psychologique. Donc à chaque émission, on va recevoir deux invités qui vont venir nous parler de leurs livres et de leur expertise aussi sur la santé. Et sans plus tarder, aujourd'hui, on reçoit Marthe Saint-Laurent qui a écrit le livre « Après le fond du gouffre, la résilience heureuse » des éditions Québec Livre. Et en deuxième partie, on recevra Agathe Tupula qui a écrit le livre « Je bégaye, laissez-moi parler » des éditions du CHU Sainte-Justine. Et évidemment, on a toujours nos incontournables chroniques livres avec Catherine Bourderon, notre coup de gueule avec Mathieu Guénette et une belle nouveauté, Elliot Boulat nous fera une chronique historique sur le bégaiement. Bienvenue à C'est bon pour la santé. Alors, on a le plaisir de recevoir Marthe Saint-Laurent, qui est conférencière chevronnée, chroniqueuse télé et radio, ex-journaliste pour la presse écrite, et elle est l'auteur de 16 ouvrages dont plusieurs ont été consacrés aux relations interpersonnelles. Elle a fait ses études universitaires en études françaises et en journalisme et a suivi des formations en psychologie et en coaching. Et en plus de tout ça, elle a écrit le livre « Après le gouffre, la résilience heureuse » des éditions Québec Livre. Bienvenue, Marthe Saint-Laurent.
Merci beaucoup, Camille. Bonjour, François.
Bonjour, Marthe. Bienvenue.
Oui, merci.
Alors, on parle aujourd'hui d'un sujet, ma foi, tellement intéressant. On pourrait en parler pendant des heures, je pense. On parle de la résilience. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qu'est-ce que c'est la résilience? Parce que au tout début de votre livre, vous le mentionnez vous-même, hein, on utilise ce mot un petit peu partout à droite à gauche sans vraiment en connaître le vrai sens.
Oui, c'est vrai que ce terme-là, la résilience, en fait, c'est un mot qui est galvaudé. Il y a plein de gens qui se disent « moi, je suis résilient ». Et au fond, pour moi, la résilience, c'est vraiment la capacité de rebondir après l'épreuve. Alors, on a tort de croire que simplement parce qu'on est resté vivant après une épreuve, que nous sommes résilients. La résilience, c'est pas seulement de s'accrocher à la vie qui est physique, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Mais pour moi, la résilience, c'est vraiment de prendre l'épreuve et de rebondir,
c'est-à-dire comme de sur se trampoline.
De se propulser. Alors l'épreuve devient en fait un élément pour aller au bout de soi.
Oui.
Pour aller plus loin, dire bon, j'ai vécu ça, on m'a envoyé ça comme événement, comme tragédie. Alors bon, je traverse mon deuil, je vis ce qu'il y a à vivre et tout. Mais après, je me dis qu'est-ce que j'ai à retirer, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette tragédie-là. Et là, je prends cet événement-là et je me propulse. Donc je vais plus loin, je dépasse en fait.
On en tire parti.
Tout à fait, tout à fait.
Mais quand vous dites on m'envoie cette épreuve, c'est qui le « on » ?
Mais c'est la vie, en fait. C'est la vie qui est remplie de belles choses, de choses merveilleuses, mais aussi d'embûches,
oui.
De maladies, de morts, d'accidents de voiture. C'est la vie, en fait. Tout le monde a des épreuves et selon chaque individu, selon la sensibilité de chaque personne, il y a des gens qui vont vivre un événement semblable, je pense, à un cancer. Donc, il y en a qui vont traverser ça comme rien, et il y en a d'autres que ça va être l'événement marquant de leur vie.
Mais comment on l'explique, cette différence de vécu sur...
Je pense que ça va avec la sensibilité de chacun. Ça va aussi avec le vécu. Il y a des gens qui ont eu des enfances extrêmement difficiles, malheureuses, qui ont vécu déjà des tragédies. On parle, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été victimes d'inceste. Oui. Donc, c'est sûr que quand on est fragilisé, utilisé dès l'enfance. Après, quand on pousse comme un arbre, ben on est moins solide parce que les racines, et puis il y a des enfants qui n'ont pas de racines, qui ont des parents qui n'ont pas de parents. Il y en a qui ont des parents qui sont irresponsables, il y a des parents qui sont très absents. Donc, les enfants, selon leur tempérament, vont pousser, en fait, droit, solide, puis il y en a d'autres qui vont pousser, comme on peut dire, un peu croche ou très fragilisé. Donc, après, dans la vie adulte, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être capable d'absorber plus ou moins bien les coups.
Mais c'est votre image de l'arbre est magnifique et justement, on se demande, est-ce que, par exemple, donc on peut vivre déjà plusieurs traumatismes dès l'enfance.
Oui.
Est-ce que ce fait que, par exemple, un enfant va vivre une épreuve ou un obstacle X va, oui, donc, toucher à une certaine vulnérabilité, mais va aussi, par le fait même, gagner certaines ressources, certains outils quand il va être adolescent, quand il va être adulte. Mm-hmm. Est-ce qu'encore une fois, ça dépend de chacun? Est-ce que si on vit déjà un traumatisme dès notre jeunesse, est-ce qu'on peut être plus fort une fois adulte ou pas nécessairement?
Pas nécessairement. Selon la personnalité, selon l'amour reçu, selon l'aide aussi qu'on a reçue, qu'est-ce qu'on a fait de l'événement? Je reviens souvent parce que dans l'enfance, c'est souvent ça, c'est le fameux viol, l'inceste. Donc, selon que l'enfant en a parlé, a été capable, a été suivi en thérapie, a été écouté, a été entendu, va faire en sorte que cette femme-là, ou même aussi il y a des garçons qui sont victimes d'inceste, va arriver, il va être plus fort. Mais si il a gardé ça à l'intérieur de lui, il est plus fragile. Donc, il y a aussi un tempérament de personnalité. Il y a l'ADN, il y a l'encadrement, il y a l'amour ou le non-amour, ou qu'est-ce que l'enfant lui-même a fait de cet événement-là.
La résilience ne concerne que les adultes? Ou ça peut être aussi les adolescents?
Oui, les adolescents et aussi les enfants.
À partir du moment où on est construit, même les
enfants? Ah oui, même les enfants.
D'accord.
Oui, même les enfants. J'ai côtoyé une jeune fille, en fait, qui était, je dirais, sur le plan psychologique, pas maltraitée par les parents, mais pas beaucoup d'amour, beaucoup de sévérité et tout et tout. Mmh. Et je la regardais aller, puis je me disais, cet enfant-là, qui n'a pas encore 5 ans, est déjà résiliente, parce qu'elle laisse parler les parents. Et moi, ça me perturbe. Et je regarde, puis je me dis, ah oui, cet enfant-là a compris que ça donne rien de se révolter, ça donne rien. Donc, elle est déjà dans la résilience. Évidemment, viendra un jour, possiblement l'adolescence ou peut-être avant, où elle va se révolter. Oui. Mais présentement, on peut observer dans le comportement de cet enfant-là que déjà, elle se dit, OK, laisse aller.
C'est plus de la sagesse.
Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est sage? Peut-être. Peut-être qu'elle est encore connectée avec son âme, en fait, qu'on perd un peu en vieillissant. Mais oui, c'est possible, c'est de la sagesse. Ou elle a dû analyser. Peut-être qu'au début, elle se révoltait, elle voyait que ça donnait rien. Donc, elle s'est dit, laissons aller. Mais on voit dans ses yeux qu'elle n'est pas d'accord. Mais en même temps,
elle laisse sa place un peu.
Oui, elle se dit, bon, on sait qu'elle garde son idée, qu'elle garde tout ce qu'elle pense, mais elle laisse, comme on dit, c'est quoi, laisser braire. Donc, moi, je vois un enfant. Après, bon, je ne sais pas comment il sera à 10 ans parce que je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas anticiper, mais je me dis que cet enfant-là, c'est possible. Soit d'un côté où elle va devenir vraiment révoltée, puis ça va perdurer, puis elle va être toute sa vie en révolte, ou elle va être pendant un moment en révolte, puis après, elle va reprendre un peu la sagesse, la résilience, de dire, OK, on laisse aller, finalement, on navigue.
Oui.
On se laisse porter.
Et ça fait penser aussi un peu, on parle de résilience, de sagesse. Il y a un peu la notion de spiritualité, j'ai l'impression, qui arrive rapidement quand on parle de peut-être mémoire, de l'âme ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire avec la spiritualité et la résilience?
Oui, sauf que ça, c'est un sujet, là, on entre dans autre chose. Oui, autre chose complètement. Oui, effectivement, pour moi, la spiritualité, bon, après, il faut aller dans les réincarnations, la mission des âmes et tout. Je sais pas si c'est le propos, moi, j'ai aucun souci à y aller, mais après, oui. Alors, pour moi, effectivement, c'est que l'âme, l'âme revient sur Terre se réincarner et se donne en fait une mission de base, c'est-à-dire je dois passer par là pour atteindre mon objectif, comme on s'inscrit à l'université en médecine pour avoir son bac et devenir médecin. Donc, la vie n'est qu'une école. Alors, c'est qu'on se choisit déjà, l'âme se choisit avant de se réincarner, en fait, des parents, d'un entourage et tout. Donc, c'est vrai que selon la croyance de chacun, ben, il y a des gens qui disent non, on ne choisit pas nos parents, on ne choisit pas. Bon.
C'est personnel,
moi,
au final.
Voilà, moi, selon mes croyances, je pense qu'on choisit le terreau dans lequel nous allons pousser. Mmh. Alors, pour arriver, en fait, à se réaliser et atteindre la mission qu'on s'est fixée. C'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, ça, c'est autre chose. On se dit, je ne peux pas croire que moi, j'ai choisi ça pour évoluer, pour cheminer, pour avoir l'obtention de mon bac au final. Comment j'ai pu choisir un parcours aussi
ardu,
oui, tumultueux et rempli d'épreuves et d'échecs aussi. Il y a des échecs à travers tout ça.
Oui, mais ça touche tout le monde.
Oui, tout à fait.
Eh bien,
oui.
On va écouter une petite chanson et on continue d'en parler tout de suite après.
Avec plaisir.
Trust the movement, I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, 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 oh, oh. Are poignant, the winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out front. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful, prayers to the waters, women at the center. All vessels open to give and receive. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, 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 oh, ooh, ooh,
together make a mighty roar.
close my mouth and learn to listen.
On est toujours en compagnie de Marthe Saint-Laurent et on discute de résilience. Marthe, est-ce que vous auriez envie de nous partager votre propre vécu par rapport à la résilience?
Oui, avec plaisir. C'est vrai que quand on écrit sur ces sujets-là, on se dit « Oui, mais qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'est pas psychologue. » Alors, en fait, ce que moi, étrangement, bon, mon mari est décédé d'un arrêt cardiaque. Il avait 41 ans, moi j'en avais 39 ans. Et c'était 3 jours avant mon anniversaire. Et 2 semaines avant, mon poste avait été aboli. Donc, à l'intérieur de 2 semaines, j'avais plus de mari, j'avais plus d'amoureux, j'avais plus d'emploi. Donc, voilà, c'est... Puis j'avais ma fille de 9 ans qui en fait, elle n'était pas sa fille. Mmh. C'était mon deuxième mariage. Alors, c'est vrai que on perd pied, on veut mourir. Et après, ben, on s'accroche à notre enfant parce qu'on dit, bon, je dois continuer pour cet enfant-là qui n'a pas rien demandé et tout. Donc, je me suis accrochée, en fait, à ma fille et j'ai continué, mais j'ai galéré, je vous dirais, presque pendant 5 ans. Parce que ce qu'il faut rajouter, c'est que dans notre grande naïveté, on ne meurt pas à 40 ans. Donc, on n'avait pas de testament. Alors, il a fallu quand même une année pour régler l'histoire de la succession avec une belle famille pas trop sympa. Alors, pendant une année, bon, je devais me défendre avec des avocats, des notaires et tout et tout. Donc, mon deuil a commencé, je vous dirais, une année après le décès. Et là, quand j'ai commencé à en parler, on m'a dit, ben écoute, reviens-en, ça fait 1 an qu'il est décédé, passe à autre chose. Donc, ça a été un peu, ça a été difficile. Il y avait tellement de deuil à faire, il y avait tellement de choses à comprendre. Donc, ça m'a pris un bon 5 ans, je vous dirais, avant de retomber sur oui, oui, voilà, voilà. Et pendant cette période-là, bon, ben il y a eu des hauts, des bas, puis j'ai quand même galéré. Donc, je voulais pas prendre d'antidépresseurs. Donc, je me suis un peu engourdie, un peu beaucoup dans l'alcool. Donc, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Puis, j'allais voir mon thérapeute, il me disait, Marthe, tu devrais écrire sur la résilience. Puis, moi, c'est un mot qui me...
Il me disait rien.
Moi, j'étais encore dans ma souffrance. Et puis, c'est...
La résilience n'avait pas commencé.
Ah non, pas du tout. J'étais loin de ça.
Mais voilà, donc c'est un processus.
Ah, tout à fait. Ah oui, c'est un processus. Puis ça dure des années. Ça dure des années, en fait. Je veux dire, faire un deuil, c'est long. Encore là, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui le font en 1 an. Il y en a qui le font en 5 ans. Il y en a que ça leur prend 10 ans. Donc, il n'y a pas de temps.
Ou est-ce qu'un deuil ne peut jamais se faire aussi, selon le...
Oui, c'est une autre chose. Mais là, si le deuil ne se fait pas, on ne peut pas devenir résilient.
Ah, voilà. Mais donc,
on ne peut pas être libre.
Mais donc, concrètement, sachant que c'est un processus.
Oui.
Ça commence par quoi? Où la résilience pointe le bout de son nez entre le traumatisme et le bien-être?
En fait, je crois que nous devons accepter chacune des étapes. Et selon encore la personnalité de chacun et l'acceptation, il y a des périodes qui vont durer plus ou moins longtemps. On parle de la révolte, on parle de la descente aux enfers, on parle après de l'engourdissement, on parle en fait des passages. Après, on pense qu'on s'en est sorti. Puis après, on se rend compte qu'on s'en est pas sorti du tout, que c'était temporaire. Donc, on replonge après. Et ces étapes-là, elles sont très difficiles à vivre parce qu'on les comprend pas, puis c'est ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est-à-dire voici moi ce que j'ai vécu, puis c'est pas la vérité, la science là. C'est moi j'ai vécu ça, mais j'observe les gens qui sont dans le deuil et il y a ces étapes-là, et si ces étapes-là ne sont pas faites, ben elles vont revenir plus tard. Elles vont se déclencher à la mort de quelqu'un d'autre.
Oui, par exemple.
Oui, mais la résilience, elle intervient quand?
La résilience à la fin de tout le processus, après le deuil ou en même temps, c'est-à-dire je prends l'événement, je me propulse et en même temps, il y a un deuil qui se fait, c'est-à-dire je fais la paix avec le passé ou avec ce qui a été et là, je me propulse. Des fois, les deux se font en même temps.
Mais dans votre cas, c'est cette personne qui c'est un psychothérapeute ou qui vous a dit écrit sur la résilience, un thérapeute.
Oui.
Mais vous étiez en plein dans le deuil encore.
Oui, en fait, j'étais sur la finale, mais je ne le savais pas. Mais j'étais encore dans la douleur. Dans la douleur.
Mais vous étiez prête à résilier.
Mais j'étais sur le point. Oui, voilà, j'étais sur le point et possiblement que mon thérapeute le voyait et qu'il me disait, écoute, écris sur la résilience. Puis en même temps, en écrivant, il savait que moi, quand j'écris, en fait, je traite de ce que je vis ou de ce que j'ai vécu. Donc, je pense que lui, il me disait, écoute, à écrire, tu vas t'apercevoir comment ça fonctionne.
Et ça vous a aidé d'écrire sur l'ambiance?
Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je ne croyais pas encore que j'étais résiliente et je ne le sentais pas. Et c'est après plusieurs années qu'à un moment donné, il s'est passé un autre événement difficile dans ma vie et la façon dont je l'ai géré, je me suis dit, ouais, Marthe, c'est ça de la résilience. C'est ça la résilience. Tu es résiliente. Et là, j'ai commencé à écrire mon livre.
Et la résilience, c'est quoi? Ça paraît magique, mais
oui, ça ne l'est pas du tout. Non, ça ne l'est pas du tout.
Il y a une petite auréole.
Ça ne l'est pas du tout. Moi, en fait, la résilience, je le vois comme j'ai écrit un roman qui s'appelle La mort à ma table. Et ça a été le début, en fait, de mon orientation d'auteur, de mon orientation de conférencière, de parler du bitchage, de parler cet événement-là, ce départ-là, cette mort-là, à un moment donné, m'a amenée à dépasser la douleur, à dépasser la victimisation, à me dire, bon, OK, Marthe, c'est beau, là, tu fais quoi maintenant?
C'est donc un projet.
Oui, quand on est dedans ou quand on l'a dépassé, mais avant
dedans.
De partir, oui, avant de partir, on se dit pas, tiens, je vais faire ça parce que je suis
dans la résilience.
À 8h15 ce matin, je suis
dans la résilience.
Non, pas du tout. C'est la journée où on se dit, qu'est-ce que je peux bien faire avec cet événement-là parce que je ne crois pas que tout ça m'est arrivé pour rien.
Mais c'est une prise de conscience.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Et dans la mesure où on passe à l'action, c'est-à-dire qu'on commence. Moi, la journée où j'ai sorti l'ordi, je me suis dit, OK, Marthe, c'est bon, tu commences. Eh bien là, tu te dis, voilà, je suis dans le processus de la résilience, c'est-à-dire je prends le drame et je me propulse.
Se prendre en main.
Quand on accepte, donc vous acceptez ça, vous acceptez ce drame.
Oui.
Et vous vous dites, c'est pas pour rien.
Oui.
Et je vais en faire quelque chose.
Tout à fait, de positif, de constructif.
Et un projet apparaît.
Voilà.
Et quand vous êtes dans le projet, c'est là que vous dites, mais au fond, j'y suis dedans.
Tout à fait.
Okay.
Christiane Saint-Gilles disait à juste titre quelque chose de magnifique. Elle a dit, quand on arrive à sortir, à dépersonnaliser la douleur, c'est-à-dire qu'on sort de la douleur et on se regarde, en fait, on regarde la douleur de l'extérieur, puis on se dit, ah ok, voilà, c'est ça. Ça, c'est une femme qui a souffert, c'est une femme qui souffre. OK, bon, maintenant, OK, je fais quoi? Je ne m'identifie plus à la douleur. Je sors de la douleur. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça le lendemain d'un décès ou quand on apprend qu'on a un cancer ou que notre enfant a un accident ou des trucs comme ça. C'est après. Mais vient un temps où on se dit, OK, bon, c'est bon, là, c'est... Tu sais, ça fait 3 ans que je pleure, ça fait 2 ans que je suis déprimée, ça fait... OK, là... où je meurs. Moi, il y a un matin, carrément, je me suis levée et je me suis dit, bon, OK, Marthe, c'est bon, là. T'sais, je mangeais pas beaucoup, j'étais super maigre, j'étais un peu comme une locumène. Mm. Puis un matin, je me suis dit, bon, OK, là, tu te suicides à petit feu, donc tu vas régler ça. C'est où tu choisis la vie, et là, tu pars, ou bien tu t'en finis, puis on arrête ça. T'sais, c'est beau, là, comment je pourrais dire, il faut arrêter l'hémorragie, quoi.
Tout à fait, la victimisation, de s'apitoyer sur son sort.
Et un matin, je me suis regardée dans la glace, je me souviens très bien, puis je me suis dit, OK, je choisis la vie, et là, j'ai sauté à pieds joints, et je suis allée. Je dis pas qu'il y a des jours où je m'assois pas parce que je suis épuisée, puis je me dis, bon...
Oui, ça, c'est normal, ça fait partie de la
vie. C'est normal, mais il y a quelque chose de plus fort en dedans de moi qui me dit, ben écoute, si cet événement-là, cette épreuve-là n'est pas venue à bout de toi, bon, Nietzsche disait, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Alors, je me dis, écoute, Marthe, toi, tu vas mourir de ta belle mort. Je veux dire, c'est pas toi qui vas mettre fin à tes jours. Donc, il y a cette certitude-là aussi que qui est vraiment tapis à l'intérieur de moi maintenant.
Oui, sans avoir de spiritualité particulière, c'est-à-dire sans se dire que c'est une épreuve qui a été envoyée par je ne sais où, par je ne sais qui. on peut se dire que justement cette résilience, elle vient du fait que on va pas, on se dit, oh, je vais pas me laisser pourrir la vie par cette chose-là, et je vais m'en sortir parce qu'au fond, j'en ai un peu ras-le-bol.
Oui, c'est possible.
Tout à fait.
D'en souffrir.
On continue à en parler tout de suite après la pause.
D'accord.
Nous sommes toujours sur Canal M, c'est bon pour la santé, avec Marthe qui nous parle de la résilience. Et je voulais justement poser une question à Camille, ma co-animatrice, ma très chère co-animatrice, qui a quand même vécu des épreuves importantes à propos de résilience. Mmh. Toi qui justement es née avec un bras gauche et une jambe gauche en moins, comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu vis cette résilience et cette idée de résilience?
Ben, c'est un sujet qui me touche aussi personnellement énormément parce que je pense que c'est vrai qu'à partir du moment où on vit un événement, quelque chose qui nous demande d'aller justement voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, jusqu'au fond de nous, voir de quoi on est capable. Parce que devant n'importe quelle fatalité, là dans mon cas c'était le handicap, la différence, jeune, j'ai pas eu le choix. Ben, en fait, je dis j'ai pas eu le choix, je reviens sur mes mots. Je pense que tout est une question de choix, justement.
Oui.
Et je pense que ça m'a amené jeune à choisir d'accepter mon handicap et d'être bien dans ma peau, malgré les difficultés, malgré le jugement et le regard des autres.
Tu as été résiliente dès le départ.
Oui.
Je pense que oui, mais j'ai envie de parler d'humilité avec ça. Et justement, je pose la question à Marthe. Est-ce que c'est bien d'être conscient de notre résilience et d'en parler ou c'est aussi bien de ne pas en être conscient, mais au final d'être résilient? Est-ce que c'est quelque chose dont on se vante la résilience ou c'est quelque chose qu'on sent juste au fond de nous qui brille et qui est là pour nous?
Malheureusement, on a tendance à croire que lorsqu'on parle de quelque chose, c'est qu'on se vante. Ça, je pense que c'est pas la bonne façon de voir les choses. C'est-à-dire, moi, je prône la pleine conscience. Donc, je dis qu'il faut être conscient et ce n'est pas de se péter les bretelles et dire « Ah, moi, je suis comme quelque chose que j'ai et que les autres n'ont pas.
Voilà. »
Mais simplement de dire « Bon, ben écoutez, quand il y a un sujet sur la résilience, de dire « Écoutez, moi, je peux vous en parler de la résilience parce que je l'ai vécu.
Mm-hmm. »
Donc, c'est une corde de plus à notre arc. Donc c'est une connaissance qu'on a développée, qu'on a apprise. Donc moi je pense qu'il faut le dire, il faut en parler. Puis il y a des gens qui parlent tellement à travers leur chapeau, qui commencent à parler de résilience, tout le monde se dit résilient. Moi je suis résiliente,
moi je suis résiliente.
Oui, c'est ça exactement. Donc
est-ce que justement, donc cette résilience, est-ce que, à vous deux, je pose la question, est-ce que c'est pas une forme de volonté et de désir de réalisation de soi-même?
Oui, puis moi je rajouterais la liberté. En fait, c'est de se... Tantôt vous disiez quelque chose d'intéressant, François, vous disiez, c'est-à-dire de dépasser l'événement. Et c'est vrai que quand on reste accroché à l'événement, c'est que toute notre vie gère notre l'événement. C'est-à-dire, j'ai vécu quelque chose et je reste traumatisée et je prends des décisions en fonction d'eux. Je m'interdis en fonction d'eux. Et c'est-à-dire que l'événement prend le dessus sur ma réalisation, sur ma volonté, sur mes aspirations et mes talents et tout. Donc, c'est de prendre, en fait, l'événement, de dire, OK, oui, merci, c'est bon, je l'ai. Maintenant, j'en fais...
Quoi?
J'en fais quoi? Et je l'utilise à bon escient. Je le prends, puis j'en fais quelque chose de bien, plutôt que de le prendre pour me bloquer, pour me mettre des freins. Un peu comme toi, Camille, tu sais, dire, il manque un bras,
c'est-à-dire non,
voilà. Donc c'est vrai qu'il faut prendre, il faut dépasser en fait l'événement.
Et donc c'est beaucoup une question de liberté.
Oui, voilà.
Volonté de vouloir
ou de désir.
Pardon?
Ou de désir. Parce que de volonté, il y a une espèce de notion de contrainte.
Ah, mais on peut désirer des choses sans jamais l'atteindre.
Oui, non, mais je veux dire que c'est la volonté, c'est je veux m'en sortir.
Mais c'est
plutôt du désir.
Oui, c'est se motiver personnellement.
Oui, je pense que ça prend les deux.
Et je voulais poser encore une question, c'est à Camille. Toi, ça t'est arrivé très jeune puisque tu es née comme ça.
Oui.
Est-ce que tu as eu. Donc, tu étais résiliente dès le départ, mais ton projet finalement, c'était toi?
Mon projet de me choisir, moi, d'être qui je suis, de vivre pleinement. Mais complètement. Puis,
Marthe, c'est un accident.
Oui.
C'est intéressant de voir les deux éléments déclencheurs ne sont pas les mêmes.
Non.
Mais au final, tout dépend de notre attitude et des décisions qu'on en fait. Parce qu'on veut être libre d'être qui on est malgré les obstacles et les embûches.
Oui, c'est la liberté d'être à travers les défis, à travers les drames.
Tout à fait.
C'est la liberté d'être.
Et se libérer du mal-être.
Tout à fait, oui. Absolument.
Et j'ai envie de rebondir sur un de vos mots, Marthe, dans votre livre, où vous dites « Même en rampant, nous avançons ».
C'est très beau, ça.
Oh, c'est beau, je ne sais pas qui a écrit ça.
c'est
vrai parce qu'il y a des grands bouts que j'ai rampé. Ah, bien sûr, j'ai rampé. Et même d'en parler, ça fait monter les émotions. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a des bouts où on rampe. Mais même en rampant, c'est vrai qu'on avance.
Mais c'est un beau message d'espoir.
Il faut continuer, en fait.
Qu'est-ce que vous voudriez dire? En fait, j'ai deux questions en une pour la fin de notre entrevue. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous aimeriez dire, transmettre à nos auditeurs en lien avec la résilience?
En fait, je pense que pour atteindre la résilience, il faut avoir quand même un bon entourage, parce qu'on n'y arrive pas seul. Donc, avoir de l'amour, un bon entourage, des gens qui nous supportent, qui nous écoutent, qui nous appuient, mais des gens aussi qui sont capables de dire « OK, ça va faire ». Ça va faire, aider à trouver des solutions et tout. Et l'autre message, je pense de continuer à croire en ces projets, puis vraiment de se dire que ce que la vie nous envoie, les épreuves, les défis, les difficultés, vous appelez ça comme vous voulez, mais ça nous est pas donné pour nous écraser, mais pour nous propulser et accepter en fait de désidentifier la douleur après un moment,
mm-hmm.
c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire.
Merci infiniment, Martin Laurent. Et je rappelle le titre de votre livre qui est après le fond du gouffre, pardon, la résilience heureuse, c'est le mot le plus important à retenir. Mmh. Et j'annonce par le fait même qu'on va l'écouter tous ensemble, le coup de gueule de Mathieu Guénette qui s'appelle « Le grand art du passif agressif ». Merci beaucoup.
Merci à vous deux.
Pendant longtemps, j'ai cru que les passifs agressifs étaient simplement des gens trop paresseux. Je m'explique avec un exemple. Ma blonde me demande de faire des travaux de peinture avec elle. Je lui réponds « Bien sûr, ma petite chérie ». Mais quand je commence à peindre, je mets de la peinture partout, sur les cadres de porte, sur le plancher. Elle me dit de m'appliquer plus, mais je lui réponds « Je fais mon possible, ma petite chérie. Je suis pas très bon, que veux-tu? » À la fin, elle décrète qu'en fin de compte, pour elle, c'est plus de trouble de m'avoir dans ses pattes. Je lui réponds « Aucun problème, ma petite chérie, et je m'en vais faire une sieste. » C'est très malin comme stratégie. Bon, peut-être pas pour favoriser l'admiration de ma blonde à mon égard, mais à très court terme, je peux aller dormir. On comprend ici que la grande motivation, c'est la paresse. Mais en y pensant plus, je me suis mis à comprendre que les passifs agressifs, c'était dans le fond plutôt des mauvais perdants. Je m'explique encore. Je commence une partie d'échecs avec mon voisin. Je réalise vite qu'il est meilleur que moi. Ça mérite parce que j'ai pas envie de perdre, bien sûr. J'ai pas l'option de devenir meilleur, mais à la place, je décide alors de jouer n'importe comment. Mais vraiment n'importe comment. Ça devient ridicule. Mon voisin mange ma reine très facilement, je réponds en riant. Ça te rend heureux, tant mieux, hein? Mais ma reine, en fait, c'est juste un petit morceau de plastique. Ça ne représente rien d'important à mes yeux. Puis j'ai toujours trouvé que les échecs, c'était pour les ratés comme toi qui n'ont pas d'amis. C'est pour ça qu'ils sont bons. Ils n'ont rien de mieux à faire. Ils n'ont aucune vie sociale. Moi, au moins, j'ai des amis. C'est ce que je me dis. Mon voisin gagne la partie, évidemment, et je lui réponds « Bravo! Tu dois être vraiment fier de toi. Bon, ben moi, j'ai un méga party qui m'attend. Je vais aller me préparer. » Sa victoire a un goût amer. J'ai touché un point sensible. Il a gagné, mais en même temps, il n'a pas vraiment gagné parce que moi, je n'ai pas vraiment joué. Ça veut dire que je n'ai pas vraiment perdu. Je suis très malin, n'est-ce pas? Je laisse entendre que si je me forçais, je pourrais probablement le battre et ce phénomène, on le retrouve un peu partout dans notre société. Je me souviens il y a très longtemps d'avoir fait visiter ma nouvelle maison à un ami. Oui, c'est vrai, j'étais un peu fier. Cet ami me répond à la fin, « Tu sais, moi aussi, je pourrais en avoir une maison comme la tienne, si je voulais. Le seul hic, c'est que je ne suis pas très matérialiste. Je ne ressens pas le besoin de posséder, vois-tu? Moi, je préfère la liberté. » Tu comprends, les passifs agressifs, ce sont tous ceux qui critiquent aussi les patrons. Je ne dis pas un patron en particulier, parce qu'on s'entend qu'il y en a des patrons qui méritent pleinement les critiques dont ils font l'objet. Je pense à ceux qui parlent des patrons dans leur ensemble, comme s'ils formaient une grosse communauté soudée, ayant exactement tous la même vision et la même façon d'agir. On les entend avoir ce type de discours. Les patrons ne pensent qu'à l'argent. Ils n'ont aucune sensibilité. Moi, si je ne suis pas patron, c'est que je suis trop bon, tout simplement. Trop humain. C'est ça, mon problème. Il faudrait que je me déshumanise. Et ça, je refuse. Mais les passifs agressifs ne sont pas juste des mauvais perdants qui boudent un peu. Ils sont très loin d'être des paresseux. Les passifs agressifs travaillent très fort même pour arriver à leur résultat. À ce sujet, j'ai entendu l'histoire d'un employé qui arrivait toujours en retard à son travail. Pas de 20 minutes, mais de 3 ou 4 minutes. Tu sais, juste pour que ça soit gossant, là. Leur comportement nous dérange, mais on s'interroge toujours si pour si peu, c'est exagéré de faire un commentaire. Jouer avec autant de précision sur la ligne, ça demande beaucoup de doigté. Vraiment. Un jour, le patron décide de rencontrer son employé à ce sujet. « Prochaine fois, tu auras un avertissement écrit « Attention ». L'employé dit comment il est désolé, il explique que sa voiture a une crevaison, c'est pas de sa faute, c'est exceptionnel. Le patron est compréhensif, ça finit avec une petite tape sur l'épaule. Allez mon brave, on serre la main, demain est un autre jour. Mais le lendemain, le type en question arrive encore en retard. Le patron est bien obligé de lui remettre un avis écrit. Cette fois-ci, l'employé dit que son bébé était malade. Le patron se sent mal, mais il n'a pas le choix. Il dit que de faire attention, car après 3 avis de ce genre, c'est le congédiement. C'est dans la convention collective. Tu devines que les jours suivants, l'employé arrive encore 2 autres fois en retard jusqu'à ce que le patron lui dise « Écoute, là, c'est maintenant le dernier avis que je te donne. Tes excuses sont toujours bonnes, décès soudain de ta grand-mère, inondation dans ta chambre à coucher. Ça ne change rien. Si tu arrives en retard demain, je dois te mettre à la porte. » Le patron se sent même un peu mal, sent coupable à l'avance, il ne dort pas de la nuit. Cet employé a des jeunes enfants. Mais le lendemain, surprise, l'employé arrive à l'heure. Le surlendemain, l'employé arrive encore à l'heure. C'est pas compliqué, l'employé n'arrive plus jamais en retard. Le patron est convaincu que le problème est réglé, il est même soulagé. Mais un an plus tard, selon la convention collective, le dossier de l'employé revient vierge. Après un an, tous les retards et avis écrits se retrouvent effacés du dossier automatiquement. Le lendemain même où le dossier de l'employé revient vierge, l'employé arrive en retard. Ça force l'admiration, non? C'est du travail colossal d'agir de la sorte. Ça prend un calendrier. Il n'y a aucune marge d'erreur possible. Moi, rendu là, j'appelle ça carrément de l'art. Le problème, c'est pas un art très reconnu comme artiste peintre ou musicien. Artiste du retard, je vois pas comment tu peux en faire une vraie carrière, tu sais. C'est ce qui est le plus fâchant, c'est que les passifs agressifs sont travaillants. Ils ont de la sueur sur les tempes tellement ils travaillent, mais le seul travail qui leur tient vraiment à cœur, c'est celui de nous faire suer.
Il est vraiment très, très bon, ce Mathieu Guénette, hein, quand même. Alors maintenant, nous allons pouvoir profiter de Catherine Bourderon,
oui,
qui va nous parler de bien dormir sans médicaments, du docteur, à propos du bouquin du docteur Philippe Maslow et Marie Borel.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Catherine.
Alors, docteur Philippe Maslow, c'est un médecin généraliste et Marie Borel est une journaliste spécialisée en santé. Mais avant de vous parler de comment dormir sans médicaments, je vous laisse un peu en haleine. En premier lieu, j'aimerais vous exposer des chiffres sur les habitudes de sommeil chez les Canadiens qui ont été diffusées par Statistique Canada en 2017. Donc, c'est quand même assez
récent.
C'est assez récent. Ouais. Au cours de la période s'échelonnant de 2007 à 2013, les Canadiens de 18 à 64 ans dormaient en moyenne 7,12 heures par nuit. Environ deux tiers des participants à l'enquête ont déclaré dormir les 7 à 9 heures recommandées et un tiers a déclaré dormir 7 heures. Alors, il était rare que, bon, dans ce groupe d'âge, le nombre d'heures dépassait les 9 heures de sommeil. Les personnes de 18 à 64 ans dont le niveau de scolarité dans le ménage et le revenu du ménage était élevé, étaient plus susceptibles de dormir les nombres d'heures recommandées. C'est incroyable que ceux qui avaient un faible revenu
dorment plus.
Ben oui, quand ça a l'air, donc quand t'as plus d'argent, tu dors bien, tu dors sur tes lauriers.
Plus d'études, plus d'études. Ah, plus d'études.
Oui, voilà.
Non, si. Mais ils dorment sur les lauriers.
Ils dorment sur le laurier, c'est ça.
Et aussi, donc ce qu'on peut... Ah oui, alors aussi, selon l'enquête canadienne sur les mesures de la santé, pour la période allant de 2007 à 2013, 43% et 55% respectivement des hommes et des femmes de 18 à 64 ans ont déclaré avoir de la difficulté à dormir ou rester endormi. Donc, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Un sommeil de courte durée et une pauvre qualité de sommeil sont courants chez les Canadiens adultes. Environ un tiers des Canadiens ne dorment pas le nombre d'heures recommandées d'heures par nuit pour assurer leur santé mentale et physique optimale. Ils éprouvent plus fréquemment un sommeil de pauvre qualité. Donc, il y a deux constatations que je vois. Premièrement, un tiers des Canadiens ne dorment pas. Puis quand tu as plus d'argent, tu dors. Vous en pensez quoi, docteur Bart? Non, mais c'est ça. On ne dort pas assez. Puis ceux qui dorment ont un compte en banque plus...
Bah, peut-être qu'ils sont mieux payés à l'heure, donc ils peuvent dormir plus, peut-être, c'est ça? Non, mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les gens qui sont les gens qui ont fait plus d'études dorment mieux, finalement, hein? Ou ceux qui gagnent plus d'argent? C'est assez étonnant, mais bon.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que bien dormir, ça se travaille dès l'enfance? C'est-à-dire qu'on se voit dans l'avenir, on se voit se faire des études, on se voit réussir, on se voit avoir plus d'argent et par la suite, dans notre vie, on dort mieux. Est-ce que ça se prévoit bien dormir dans les choix de vie qu'on fait?
Et peut-être que c'est l'inverse. Les gens qui dorment bien et beaucoup, c'est peut-être ceux qui font des études. Parce qu'il faut refaire des
c'est
études.
Mais c'est ça. Pour faire des on études, se voit faire des études, donc éventuellement... Je ne sais pas s'il y a un lien entre les études et faire plus d'argent, mais on se propulse dans l'avenir pour avoir une meilleure santé physique et financière. On est ambitieux.
Oui.
Est-ce que l'ambition plus jeune fait en sorte qu'au final, on dort mieux? Je ne sais pas.
On dort mieux quand on dort mieux, on travaille mieux.
Oui.
Et quand on travaille mieux, on peut réussir mieux les examens, je pense. Mais je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est les gens qui dorment beaucoup ou qui ont besoin de sommeil ou qui se laissent aller à dormir. Ce sont, en effet, j'en connais pas mal, qui dorment bien. C'est vrai que si on dort peu ou si on se dit demain, mon travail n'est pas très important, par exemple, où mon travail est un travail simple et qui ne demande pas énormément de compétences, si c'est un travail manuel, on n'a pas besoin de dormir énormément. Donc on se dit, je vais rester avec les copains, on peut rester un petit peu plus. Alors que quand on a un travail qui est important, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Et on fait plus d'argent et on dort mieux.
Mais peut-être.
J'essaie de comprendre. Je veux dormir.
Je pense que c'est si on a des responsabilités, on se dit demain j'ai des responsabilités, je dois dormir.
Et c'est ce qui fait qu'on va éviter, par exemple, de trop boire de café, d'être sur le téléphone avant de dormir.
Exactement, de regarder son téléphone. Et c'est vrai qu'on cherche à dormir. On se donne une loi et une règle pour dormir correctement.
Mm-hmm. Comment ça se fait lorsqu'on va consulter un médecin et qu'on a un trouble quelconque? La première question qu'il nous pose, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que mal dormir est un signe d'une mauvaise santé?
C'est un signe très fréquent d'une mauvaise santé, mais c'est surtout, c'est fatigue, sommeil et perte de poids.
Ah oui?
Oui, c'est les trois signes importants.
Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Nous sommes avec vous sur Canal M, c'est Bon pour la santé avec Camille Chaille et François Baruel. Et nous recevons maintenant Agathe Tupula-Cabola.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Agathe. Alors vous êtes orthophoniste, vous êtes chargée de cours à l'Université de Montréal.
Oui.
Vous écrivez des chroniques à la télévision et dans des magazines.
Oui, j'écris des chroniques et je participe à des chroniques également à la télévision.
Ah, c'est bien. Mm-hmm. Votre livre, Je bégaye, laissez-moi parler, qui est paru aux éditions du CHU Sainte-Justine,
oui,
explique très bien le bégaiement. Je commence tout de suite par une question qui n'a peut-être aucun rapport avec le trouble de la parole. C'est pourquoi les enfants doublent-ils toujours les phonèmes, lolo, maman, dodo, joujou?
En fait, la question que vous venez de demander est une question en lien avec le développement du langage.
Ouais.
Et on va le voir tantôt en parlant plus du bégaiement, que le bégaiement n'est pas un trouble de langage, mais plutôt un trouble de la parole. Et on va pouvoir, distinguer les deux. Mais pourquoi les enfants doublent? En fait, c'est dans le développement normal du langage, les enfants vont passer par des étapes, par exemple le babillage, où ils vont faire des syllabes comme mama, papa, baba. Ça fait partie des étapes pour pouvoir être en mesure d'être autonome et de dire des mots par la suite et bien articuler les différents sons.
D'accord. Eh bien, j'ai d'autres, merci. On va y revenir tout à l'heure. Hein.
Oui.
Donc, j'ai quelques questions qui me viennent, mais qui n'ont encore pas forcément, mais c'est les premières, comme ça toujours quand on voit bégaiement. Combien d'adultes bégaient?
En fait, on évalue qu'il y a environ 1% de la population partout à travers le monde, donc
quel que soit le langage,
quel que soit le territoire, si on veut géographique, il y a environ 1% de la population qui bégaye. Mais on évalue qu'il y a environ 10% des enfants qui vont bégayer ou qui ont bégayé à un moment ou à un autre de leur vie. Autrement dit, ce n'est pas tous les enfants qui bégayent qui vont continuer à bégayer à l'âge adulte. Mmh. Donc, on parle d'un bégaiement persistant chez 1% de la population.
D'accord. Ah oui.
Et on sait que ça affecte beaucoup plus les garçons aussi que les filles.
Pourquoi? Oui, j'ai vu que c'était 4 garçons pour une fille, c'est
environ,
ça?
Environ, oui. Donc, c'est un ratio beaucoup plus élevé pour les garçons. On ne sait pas encore exactement pourquoi. La recherche se penche là-dessus, mais on n'a pas trouvé encore une hypothèse qui tient la route pour expliquer ce phénomène-là.
OK, ça, c'est curieux.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des personnes médiatiques qui bégayent?
Oui,
il
y en a plus qu'on le pense. On peut penser à certains chanteurs ou à des comédiens, des humoristes qui vont en parler ouvertement. Au niveau de la chanson, au Québec, on a le chanteur Luc de la Rochelière qui a déjà parlé ouvertement de son bégaiement dans les médias. Il y a également des comédiens qui bégaient, pas seulement ici, aux États-Unis également, en Europe. On peut parler aussi de différents genres de la communauté artistique. Mm-hmm. Donc, parfois, ils vont le cacher dans le cadre de leur rôle ou de leur fonction professionnelle, si on veut. Mais quand on s'entretient avec ces personnes-là, donc au niveau de... en dehors de leur travail de comédien, par exemple, on se rend compte qu'ils ont des disfluidités.
Ah, et est-ce qu'on peut être avocat, justement, et plaider?
Certainement. Et je connais moi-même, personnellement, un avocat qui bégaye.
Ça me paraît invraisemblable. Alors, je comprends parce que les chanteurs apprennent leur chanson par cœur. Leur texte, ils le connaissent par cœur. Donc, ils peuvent faire comme le roi George VI, faire un discours en le connaissant par cœur. Mais un avocat, il ne peut pas connaître sa plaidoirie par cœur.
Effectivement, ce n'est pas tous les métiers qui exigent de s'exprimer par cœur. Toutefois, on peut très bien s'exprimer sans que ce soit du par cœur en bégayant de manière, je dirais, en étant à l'aise de bégayer ou en ne bégayant pas et en ayant recours à des stratégies qui nous permettent d'être fluides. Donc, c'est sûr que tout le monde va avoir à un moment ou à un autre des disfluidités. Parfois, on va s'accrocher au niveau de certains mots, au niveau de certaines phrases. On va répéter des mots, comme je viens de le faire. J'ai répété un article. Mmh. Parfois aussi, on va chercher nos mots. Mmh. Donc, tout le monde a ce type de disfluidité-là. Mais chez les personnes qui bégaient, c'est des disfluidités qui ne sont pas tout à fait pareilles au niveau de la nature des disfluidités. On va avoir des répétitions de parties de sons, de parties de mots, des blocages, comme je viens de faire, mm-hmm. ou encore des allongements de sons comme ça. Et parfois, ces disfluidités-là vont être accompagnées de ce qu'on appelle des comportements associés. Donc, la personne pourrait avoir une tension au niveau du visage, des clignements des yeux,
des mouvements de tête.
Mais oui. C'est dû à quoi tout ça?
En fait, on sait qu'il y a une grande composante qui est héréditaire. Autrement dit, quand dans notre famille, on a des gens qui ont déjà bégayé ou qui bégayent toujours, il y a plus de risques que d'autres membres de la famille bégayent. Donc, il y a une grande composante qui est héréditaire, mais l'hérédité n'explique pas 100% du bégaiement. Donc, c'est, je dirais, un mélange de plusieurs facteurs. Et on sait qu'il peut y avoir des éléments déclencheurs dans l'environnement qui vont faire émerger le bégaiement. D'où le fait que parfois, les gens vont penser que le bégaiement est causé par un traumatisme ou par une peur, par l'anxiété, par la gêne, la timidité.
Est-ce que c'est vrai, ça?
Non, en fait, c'est que ces éléments-là peuvent exacerber le bégaiement. Ça peut empirer. Donc, quelqu'un qui bégaye peut voir son bégaiement augmenter en sévérité dans des situations de stress ou des situations de fatigue. Mais ce n'est pas ces émotions-là ou ces facteurs-là qui vont causer le bégaiement. Et puis, les autres facteurs, en fait, autrement dit, c'est qu'il faut avoir un élément déclencheur dans l'environnement, mais chez quelqu'un qui est déjà prédisposé héréditairement à bégayer.
Ça va se développer plus rapidement.
Oui, ben, exactement.
Allons à une pause et on en discute tout de suite après.
Parfait.
Vous écoutez toujours Canal M en compagnie de Camille Chai et François Baruel et on est en compagnie d'Agathe Tupula qui nous parle de bégaiement, un sujet, ma foi, qui est très mystérieux, mais à la fois, je dirais, intéressant parce que vous disiez à quel point on peut bloquer sur une fin de mot, sur un début, couper un mot entre deux. Donc, on se demandait qu'est-ce qui explique ces façons d'avoir une difficulté à s'exprimer. Donc, vous disiez au niveau de la parole?
Exactement. Comme je disais un peu plus tôt, on fait une distinction entre langage et parole. Quand on parle du langage, on parle en fait de ce système arbitraire de symboles ou de conventions qui nous permettent de communiquer des idées. Par exemple, on va avoir recours à notre langage pour raconter, pour poser des questions, pour converser avec les autres. Quand on parle de la parole, on parle plus de l'aspect mécanique de la chose. Donc, c'est comment nos muscles vont se coordonner, vont s'activer pour pouvoir articuler les sons qui correspondent au symbole ou au concept plutôt qu'on veut exprimer.
Mais justement, il y a les lèvres, la langue qui se bloque, la langue qui se met au palais.
Il y a une tension.
Des choses comme ça. Mais d'où ça vient cette commande?
En fait, c'est que le bégaiement, c'est un trouble d'origine neuromusculaire de la parole. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que la personne veut communiquer comme idée, par exemple la phrase, le discours, c'est vraiment impeccable dans la tête. C'est-à-dire que la personne sait très bien ce qu'elle veut dire. C'est
parfaite.
Pas la pensée qui bégaye. Donc, la pensée, c'est très fluide. C'est vraiment au niveau de comment la personne va vouloir dire ce qu'elle a comme idée, comme message dans sa tête, comme pensée. C'est là où il va avoir un blocage. Comme s'il y avait un bug, là, comme on dit communément. Donc, au moment où les muscles vont s'activer pour pouvoir exprimer les mots, les phrases, etc. Et on sait qu'il y a des contextes linguistiques qui sont plus propices au bégaiement. Par exemple, si la personne ne dit qu'un seul mot ou un énoncé très court, le risque que le bégaiement survienne va être moins présent que si la personne produit une phrase plus longue. Et on sait aussi que l'émotivité du message a un impact. Donc, si la personne parle de la météo, du beau temps, il n'y a pas nécessairement de bégaiement qui va être là. Mais si elle parle de quelque chose qui vient la chercher ou de quelque chose qui suscite des émotions, que ce soit des émotions, en fait, qui sont positives ou plus de l'ordre de la colère ou de la frustration, là aussi, il va y avoir plus de bégaiement en général. C'est vraiment des généralités.
Mais donc, pour la timidité, c'est l'inverse. C'est un blocage, c'est un de l'idéation.
En fait, quelqu'un qui est timide, c'est pas quelqu'un qui bégaye n'est pas nécessairement timide. Donc ça, c'est la première chose à nuancer. Il n'y a pas plus de personnes timides dans la communauté des personnes qui bégayent.
Non, ce que je veux dire, c'est que ce sont les personnes. Quand on est timide, c'est pas un problème mécanique
exact,
de la parole.
Tout à fait.
C'est un problème de l'idéation qui est sidérée. En réalité, parce qu'on ne sait plus quand on est timide. Je suis un ancien timide, donc en tant que timide, on est coincé, on est le blanc.
En fait, ouais, c'est qu'on peut perdre ses moyens, on peut sentir qu'on a les mêmes moites, la fréquence cardiaque va augmenter, on a des sueurs froides, donc on arrive moins à être dans le moment présent parce qu'on a des appréhensions, on se demande bon, qu'est-ce que la personne va pouvoir penser de moi,
mais
etc. Oui,
mais voilà, justement, parce qu'il y a du jugement qui vient devant ça, qu'est-ce qui se passe quand, ou qu'est-ce qu'on doit faire quand on parle à une personne qui est en train de bégayer ou qui, comme vous avez dit, avait un blocage.
Oui.
Parfois, on va se le dire honnêtement, ça dure quand même quelques secondes.
Oui,
et on voit la personne qui a, les contractions dans le cou et dans la mâchoire. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en face?
Comme interlocuteur, c'est une excellente question. Je suis heureuse que vous me la demandiez parce que les personnes qui bégaient, comme j'en ai à titre de patient ou dans des amis aussi, me confient parfois à quel point ça peut être déstabilisant de communiquer avec quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre là, face au bégaiement. La première chose, je dirais, c'est de maintenir un bon contact visuel avec la personne. Mmh. C'est sûr que des fois, on peut se sentir mal à l'aise parce qu'on aimerait pouvoir aider la personne à bien communiquer. On peut être tenté de compléter la phrase à sa place parce qu'on devine ce qu'elle veut dire. Mais c'est vraiment préférable de s'abstenir de le faire parce qu'on garde en tête que la personne qui bégaye sait ce qu'elle veut dire, mais elle a besoin de plus de temps pour le dire. Donc, on garde un bon contact visuel, on évite de compléter la phrase même si on devine ce que la personne veut nous dire. Et puis, on s'abstient aussi autant que possible de donner des conseils au sujet de la façon de parler. Par exemple, prends ton temps, respire.
Ah oui. On veut rassurer la personne, mais en fait, on
exacerbe le problème plus qu'autre chose. Donc, ça, c'est, je dirais, les conseils clés. Ce qu'on peut faire aussi, c'est éviter de parler trop rapidement. Certaines personnes qui ont tendance à parler rapidement, comme moi, par exemple, le simple fait de ralentir le débit peut être très aidant parce que la personne va se sentir moins bousculée, elle aura plus de temps pour prendre sa place dans la conversation et elle n'aura pas le réflexe de, elle aussi, vouloir accélérer le débit et ainsi augmenter le bégaiement.
Comment se développe le bégaiement, ou du moins, comment le détecter?
Oui. En fait, le plus souvent, ça va apparaître entre l'âge de 2 et 4 ans. Quand on parle du bégaiement développemental, parce qu'il y a un autre type de bégaiement qui peut être acquis suite à un accident ou tout autre, mais on va se concentrer sur le bégaiement qu'on voit dans l'enfance. Donc, souvent, il apparaît entre l'âge de 2 et 4 ans. Donc, c'est un âge où le langage est en plein développement. Il ne va pas nécessairement être sévère dès l'apparition. Au moment, ça peut être simplement des hésitations. On n'est pas trop certain comme parent. Est-ce que c'est parce que l'enfant
normal,
est en train d'apprendre?
C'est normal.
Tout à fait, c'est normal de se questionner comme parent.
Ben oui.
Mais il y a des indices qui peuvent nous laisser penser que le bégaiement va persister si on n'intervient pas. Donc, à quel moment, comme parent, on peut, se référer en orthophonie pour avoir une évaluation et de l'aide au niveau du bégaiement, quand on voit que l'enfant semble dérangé par son bégaiement. Donc, il peut le dire verbalement ou même au niveau de son non-verbal, il va démontrer que c'est très difficile pour lui de parler. Il peut se décourager, s'empêcher de communiquer dans certains contextes, pleurer parce que c'est difficile de sortir les mots. Ou si on voit que le bégaiement tend à augmenter en sévérité avec le temps. Alors qu'au départ, l'enfant répétait seulement quelques mots par-ci, par-là, des mots en entier, là, si je peux le dire. Et là, on note qu'il y a un bégaiement qui est de plus en plus présent en termes de fréquence et les moments de bégaiement vont durer plus longtemps. Donc, avant, c'était quelques secondes ou une seconde et là, c'est plusieurs secondes.
Alors que ça devrait être l'inverse, puisque justement, il apprend à parler.
C'est ça, exactement, tout à fait.
Oui.
Et si on voit également que au niveau du type de dysfluidité, au niveau du type d'hésitation, si on veut, dans la parole, on va voir des blocages, des répétitions de parties de mots. Donc, des parties de mots plutôt que des mots complets. Ça laisse plus penser à un bégaiement persistant aussi, ou des prolongements de sons. Et si dans la famille, on a des personnes qui bégaye aussi. Donc, si on a une composante familiale, quelque chose au niveau de l'hérédité de la famille, ça vaut la peine de consulter pour s'assurer d'avoir de l'aide le plus tôt possible.
Mais quand les parents, justement, bégayent, est-ce que les enfants ne vont pas apprendre à bégayer?
Non, ça, c'est un mythe également. Le bégaiement ne s'apprend pas par imitation. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du système de parole de l'enfant qui va être plus fragile déjà en partant à la naissance. C'est comme si l'enfant traînait dans son petit baluchon, là, si on veut, cette parole plus fragile. Mais il ne va pas apprendre par mimétie ou en imitant un parent qui bégaye.
Donc, mais par contre, il y a quand même un risque de bégaiement plus important quand les deux parents bégayent ou même quand un bégaye.
Même quand un seul bégaye. Et parfois, ce n'est pas les parents directement. Ça peut être un cousin, une cousine, le grand-parent. Ça peut sauter des générations. Ce n'est pas nécessairement la famille nucléaire ou directe. Ça peut être plus loin là, dans l'arbre généalogique qu'on a des personnes qui ont déjà bégayé ou qui bégaient.
Et chez les jumeaux, il y a des les jumeaux bégayent tous les deux ou pas?
Très bonne question. Dans la recherche, on a vu des cas, en fait, chez 8 jumeaux monozygotes, là, comme on dit, c'est-à-dire des jumeaux identiques, des vrais jumeaux. Pour 8 cas sur 10, les deux vont bégayer. Mais on a 2 cas sur 10 où il y a des chances qu'il y a un des deux qui ne bégayera pas. Et c'est ces recherches-là qui nous disent que le bégaiement ne peut pas être 100% génétique. Parce qu'on a vu des cas de jumeaux identiques où il y en a un seul qui bégaye.
Très intéressant.
Et alors, donc on ne sait toujours pas. C'est pas génétique, mais c'est quoi? On ne sait pas. Donc
c'est vraiment un mélange de facteurs environnementaux avec une composante héréditaire. Mais je tiens beaucoup à rassurer les parents qui nous écoutent parce que parfois les parents vont se sentir coupables, vont penser que c'est de leur faute si leur enfant bégaye. Parce que bon, des fois on a des cas d'une famille qui a déménagé, la naissance d'un petit frère, d'une petite sœur, les parents qui se séparent ou qui divorcent et qui vont remarquer que l'apparition du bégaiement va coïncider avec un événement difficile. Mais c'est souvent l'événement qui a fait jaillir quelque chose qui était déjà présent. Donc c'est pas la faute des parents si l'enfant bégaye.
Oui. Mais écoutez, Agathe, restez avec nous et entre-temps, on va aller écouter une chronique historique sur le bégaiement aussi d'Eliott Boulat et on se retrouve tout de suite après.
In this grave hour, perhaps the most fateful in our history, I send to every household of my people, both at home and overseas, this message.
Alors là, on vient d'entendre le discours de George VI, la déclaration de guerre, hein, c'est ça?
Exactement. Il faut se rappeler que le 3 septembre dernier, nous avons fêté les 80 ans de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale.
Cette nouvelle voix que nous entendons, c'est celle d'Eliott Boulat, qui est chercheur en histoire et qui va maintenant nous faire toutes les semaines une petite chronique de la médecine et de la santé. Donc aujourd'hui, comme nous parlons de bégaiement et des bègues, là, en l'occurrence, c'était justement le bègue qui ne bégaye plus.
Exactement. Alors, vous avez peut-être vu il y a quelques années le film de Tom Hooper, King's Speech. Excusez-moi pour mon accent. Tout simplement, le combat de George VI pour justement surmonter son bégaiement qui culmine dans ce discours d'entrée en guerre. Parce que je vous rappelle, il ne le déclare pas, il entre en guerre. Et surtout, il emmène son peuple avec lui dans la guerre. Mais George VI n'est pas le seul bègue à avoir traversé l'histoire. Le bégaiement existe sûrement depuis les débuts du discours de l'homme. Donc forcément, des bègues célèbres, des bègues historiques, il y en a eu énormément. Alors, on passera peut-être sur Démosthène parce qu'il y a des débats. Ce grand orateur du 4e siècle avant Jésus-Christ, était-il bègue? Avait-il une déformation du palais?
On pense qu'il avait une fente palatine et qu'il faisait qu'il ne parlait comme ça. Enfin, qu'il n'arrivait pas à gueuler, à se faire entendre. Donc, parce qu'en fait, l'air passait dans son nez. Et donc, il mettait des galets plats, très plats, sur son palais pour empêcher l'air de monter dans le nez. Donc, ça lui permettait de parler. On dit qu'il était bègue, mais en fait, non, il avait une fente palatine, semble-t-il.
Voilà. Alors, un bègue un peu plus connu que je vais peut-être, et un peu plus avéré, évoquer, c'est Claude, le 4e empereur romain. Alors, Claude, c'est pas gagné. Déjà, mon point de vue familial, c'est un peu n'importe quoi. C'est le 4e empereur romain, donc il fait partie de ce qu'on appelle les Julio-Claudiens. Et dans la famille, ça boit, ça s'assassine, ça se trahit. Du coup, il n'est pas très disponible psychologiquement et il développe un bégaiement. Le seul qui s'est à peu près rendu compte de son talent, c'est le premier empereur, Auguste, qui lui a fait une petite formation, mais finalement il n'a pas accédé au trône, il n'y accède qu'à la mort de son neveu Caligula, assassiné. C'est le dernier vivant de la famille, on le met sur le trône, et là, paf, on se rend compte qu'en fait c'est un excellent gestionnaire. Alors, par contre, il n'a pas laissé une image très positive aux historiens romains suivants, tout simplement parce qu'il ne s'entendait pas très bien avec le Sénat, mais ce n'est pas son bégaiement qu'on va lui reprocher. Par exemple, on va lui reprocher quelque chose qui était très suspect pour les sénateurs romains à l'époque, il n'aime que les femmes. Et ça, c'est très bizarre pour Suétone.
C'est honteux,
une sexualité un peu déviante. Il faut bien faire attention. Bon. Mais il n'y a pas que les hommes qui bégayent. Il y a parfois aussi l'histoire elle-même qui peut bégayer. Alors pour ça, on va utiliser les gros mots. On va parler de Marx. Marx dit lui-même que l'histoire se répète deux fois. L'histoire bégaye. Une fois sur un mode tragique, une fois sur un mode comique. Alors, il prend l'exemple, par exemple, de la Révolution française, 1789. C'est le tragique. La deuxième révolution, celle de 1848, qui se passe plutôt bien, c'est plutôt le mode comique, celle que lui en vie à Paris dans sa jeunesse. Alors espérons, avec ce qu'on a parlé, l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, etc., la montée de tous ces dirigeants qu'on appelle populistes à travers le monde, espérons que le bégaiement type années 30 que nous vivons en ce moment est le bégaiement comique.
Ah, au moins, ça fait plaisir à entendre.
C'est super. Merci beaucoup, Elliot.
C'est moi qui vous remercie. À la semaine prochaine.
On a entendu Elliot donc, qui raconte que Claude était bègue et dans une famille qui n'était pas de la tarte. Et donc, il n'était pas apte psychologiquement, d'après ce qu'il disait. C'était, est-ce qu'il y a vraiment une raison psychologique dans le bégaiement, en fait?
En fait, les conséquences psychologiques qui sont chez la personne qui bégaye, je dirais que ça découle du bégaiement et non l'inverse. Dans le sens où on parle souvent de l'analogie du iceberg du bégaiement, où on a une partie qui est émergée, la partie visible de l'iceberg, qui correspond à ce que tous les gens voient et entendent du bégaiement. Donc, les répétitions, les blocages, les allongements de son, ou bien tout ce qui est visible, comme la tension au niveau du visage, les clignements des yeux, la tension au niveau du cou, ou encore les mouvements des mains. Mais il y a toute une partie qui est immergée dans l'eau et que les personnes ne soupçonnent pas nécessairement, mais qui peuvent être très présentes chez la personne qui bégaye. Et même, je dirais que c'est ça qui prend le plus de place, la partie qui est non visible. Donc, la peur, les frustrations, les situations d'échec répétées.
Dues au bégaiement.
Dues au bégaiement, exactement. Et non qui cause le bégaiement.
D'accord.
Donc, bref, une personne qui bégaye, surtout une personne adulte ou adolescente qui traîne ça depuis plusieurs années et qui n'a pas nécessairement eu le coup de pouce ou l'aide dont elle avait besoin, peut vivre des situations d'appréhension, de peur, d'évitement en lien avec le bégaiement.
Cette partie de l'iceberg justement qui est cachée, est-ce que à force de s'enquister de cette manière, est-ce que ça ne devient pas la cause du bégaiement? Ou est-ce que ça ne favorise pas?
Ben oui. En fait, ça favorise, oui, pour reprendre votre mot, c'est un cercle vicieux. Ça contribue au maintien du bégaiement et même à l'augmentation de la sévérité du bégaiement dans le temps. Parce que plus quelqu'un a de situations d'évitement, de peur, d'anxiété en lien avec le bégaiement, plus le bégaiement en général va tendre à être sévère ou va augmenter en fréquence, en durée des moments de bégaiement. Et on va même voir une augmentation de tout ce qui est comportement secondaire, donc tout ce qui est la tension, les mouvements associés, le hochement de tête vers l'avant, la tête qui bascule, la tension au niveau du haut du corps. Donc ça va s'amplifier. Et quand en orthophonie, on va travailler la partie immergée, donc la partie non visible, peur en lien avec le bégaiement, l'appréhension, tout
ça. C'est très psychologique. Aussi en même temps.
Ça devient psychologique.
Oui, il y a une composante psychologique. En fait, ça le devient, ce n'est pas la cause, mais il y a une composante psychologique qui est importante, oui, qui peut être associée au bégaiement tout à fait. Ouais. Surtout chez les personnes qui grandissent, qui vieillissent. Parce que chez l'enfant, elle est rarement présente, cette composante-là. En tout cas, elle n'est pas aussi grande.
Les enfants vivent très bien leur bégaiement quand ils ont jusqu'à 3 ans, quelque chose comme ça.
Mais en fait, à l'âge préscolaire, c'est rare qu'on va voir un enfant qui va être très, je dirais, dérangé par son bégaiement. En général, le dérangement et l'évitement vient en grandissant plus vers l'âge scolaire et à l'adolescence.
Quand ils font face, justement, aux autres.
Exact,
voilà,
tout à fait.
Mais comment on peut diminuer? Est-ce que le bégaiement se diminue ou se soigne? Est-ce que c'est le bon terme?
En fait, je dirais que le bégaiement se traite plus qu'il se soigne, dans le sens où le bégaiement n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble de la parole. Donc, oui, on peut le traiter. Je dirais que dans l'enfance, à l'âge préscolaire particulièrement, on peut le traiter encore plus facilement, en ce sens qu'on verra moins souvent de rechutes, parce que le bégaiement est un trouble très sujet aux rechutes. Et aussi, c'est qu'à l'âge préscolaire, comme je disais, on n'a pas la partie immergée de l'iceberg, donc on n'a pas une composante psychologique importante encore à traiter. Mais plus on attend, c'est pas ça devient trop tard. Il n'est jamais trop tard pour aider quelqu'un qui bégaye. Même à l'âge adulte, quelqu'un même du troisième âge qui n'a jamais eu d'aide.
Toujours en s'attaquant à la partie immergée?
Oui, toujours en s'attaquant à la partie immergée, parce que même en s'attaquant à cette partie, sans même faire un travail direct sur la parole, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe une amélioration au niveau de la parole. On observe moins de disfluidité, on observe des disfluidités qui vont être moins sévères. Donc, par exemple, au lieu d'avoir des blocages importants comme je viens de faire, la personne pourrait bégayer plus facilement, par exemple, avec des petites répétitions comme ça, qui vont être moins imposantes, moins importantes.
Mais au final, est-ce qu'on peut vivre heureux, même si on bégaye toute notre vie? Vous connaissez des personnes qui l'acceptent complètement et qui n'ont pas peur de prendre la parole devant d'autres personnes?
Oui, ben moi-même, dans mon entourage, j'ai beaucoup de cousins qui bégayent dans ma famille. Donc, il y a une composante héréditaire qui est là.
Et pas vous, jamais?
Moi, non, je bégayais pas. Je n'ai pas bégayé non plus dans l'enfance.
C'est ça, voilà ma question.
Mais dans ma famille,
oui.
J'ai eu beaucoup de cousins, cousines aussi qui sont passés par là et qui continuent à vivre avec le bégayement. Mm. Mais j'ai aussi des amis qui sont membres de l'association Bégayement Communication, avec l'acronyme ABC, anciennement connue sous l'appellation Association des Bègues du Canada. Donc, c'est des personnes, en fait, qui bégayent et qui sont là pour soutenir d'autres personnes qui bégayent. Donc, adolescents ou adultes qui bégayent, qui visent donner du soutien, de l'aide, des renseignements informés, sensibiliser beaucoup au sujet du bégayement. Et c'est une association qui offre du soutien, par exemple, pour les présentations orales, oui. Entretien d'embauche pour un emploi. Il y a un centre de documentation où on peut aller pour emprunter des livres. Ils organisent des événements où on peut se rencontrer, donc des journées rencontres aussi. D'ailleurs, il y en a une qui s'en vient là, le 26 octobre, journée rencontre annuelle de l'ABC, qui est en lien avec la Journée mondiale du bégaiement le 22 octobre. Donc, oui, tout ça pour revenir à votre question, il existe des personnes qui vivent bien avec leur bégaiement, qui exercent des métiers comme avocat ou des métiers qui demandent de parler, de s'exprimer en public, enseignant. Je trouve que c'est important de le mentionner parce que parfois, on va penser que parce qu'on bégaye, on doit faire un métier qui demande de moins parler ou de moins socialiser, alors que non, c'est vraiment faux.
Est-ce qu'on bégaye quand, dans une famille bilingue, est-ce qu'on bégaye dans une langue et pas dans l'autre ou dans les deux langues?
C'est une très bonne question. En fait, quand on bégaye dans une langue, on va bégayer dans toutes les langues, mais le bégaiement va prendre parfois, je dirais, une apparence différente. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes qui bégayent sur des sons en particulier. Il y a des sons qui sont beaucoup plus difficiles. Par exemple, le son « p ». Donc, P comme dans papa. Donc, si j'ai des P dans des mots, ça va être encore plus difficile de bien exprimer ces mots-là de manière fluide. Mais si dans l'autre langue, ce phonème-là ou ce son-là n'existe pas. Hein? Par exemple, le son U, le phonème U n'existe pas en espagnol. On va voir le phonème U, mais pas U. Donc, si les sons sont moins présents dans l'autre langue, ça se peut que le bégaiement soit moins important dans l'autre langue. Ou si j'ai beaucoup plus d'aisance à m'exprimer dans une de mes deux langues, il y a de fortes chances que je bégaye plus dans la langue dans laquelle je suis à l'aise parce que je vais plus parler, simplement.
Oui. Ah, d'accord. OK, oui. Donc, finalement, la langue qu'on maîtrise le mieux, c'est peut-être celle-là qui va être susceptible d'être le réceptacle du bégaiement.
Oui. Ou parfois, d'accord. C'est même l'inverse. La langue qu'on maîtrise le mieux, c'est celle dans laquelle on bégaye moins parce que, justement, on met moins d'efforts sur la formulation des phrases, on est plus à l'aise.
On prend pour acquis un
donc,
peu.
C'est ça, exactement. Donc, on va voir des fois le phénomène vraiment inverse. C'est ça qui est mystérieux du bégaiement, c'est que c'est jamais pareil d'une personne à l'autre.
Est-ce que je voudrais aborder quand même le morceau, enfin la partie du traitement en lui-même. Comment est-ce qu'on peut traiter un bégayeur?
Oui, donc si on commence, disons, par l'âge préscolaire, parce que les traitements varient vraiment selon les tranches d'âge.
Quoi que le traitement préscolaire, justement, dans 90% des cas, ils vont arrêter de bégayer, de toute façon.
En fait, à l'âge préscolaire, le bégaiement va souvent, être éliminé. Disparaître, j'ose pas trop dire le mot disparaître dans le sens où parfois, oui, il va disparaître, mais il va réapparaître plus tard à l'adolescence. Donc, on ne peut jamais dire que le bégaiement est éliminé complètement. Mais je dirais que le pronostic est quand même très favorable chez les enfants d'âge préscolaire parce que souvent, comme je disais, on va voir moins souvent des rechutes.
D'accord.
Donc, moins de chances que ça réapparaisse. Donc, le traitement, en quoi ça consiste? Au Québec, on utilise beaucoup ce qu'on appelle le programme LIDCOMB. C'est une approche qui nous vient de l'Australie, de la banlieue de LIDCOMB. Et c'est là où le traitement a été élaboré. C'est un traitement de nature comportementale. Ça veut dire que, en fait, c'est pas l'orthophoniste qui va intervenir directement sur la parole de l'enfant. L'orthophoniste va guider le parent, va lui enseigner comment faire pour faire le traitement à la maison. Parce qu'on part de l'idée que c'est les parents qui passent le plus de temps avec leur enfant. Donc, c'est eux qu'on veut outiller et sensibiliser, tout à fait. Donc, on va leur montrer une certaine façon d'adresser des commentaires à l'enfant au sujet de sa parole. Mais des commentaires, en fait, pas n'importe lesquels. C'est des commentaires qui vont être soit en lien avec la parole fluide ou en lien avec la parole bégayée. Des commentaires qui vont être adressés d'une certaine façon, à une certaine fréquence. Et la façon dont on va adresser les commentaires va changer au fur et à mesure que le traitement évolue. Et en fait, à travers ces commentaires que l'enfant reçoit de son parent, il va lui-même comprendre quoi faire pour ne pas bégayer.
D'accord.
Tandis qu'à l'âge scolaire et à l'adolescence ou à l'âge adulte, on va plutôt travailler directement sur la parole avec différentes approches. Il y en a vraiment plusieurs, mais pour vous donner quelques exemples, on peut utiliser des stratégies qui favorisent la fluidité ou de façonnement de la fluidité. Donc, en travaillant au niveau du débit de la parole, en travaillant au niveau de comment les mots vont mieux glisser, en travaillant sur des sons qui sont plus difficiles. Donc, on va aussi travailler au niveau de la partie cachée du bégaiement. Plus l'enfant va avancer en âge, donc c'est important de le considérer parce que si on ne le considère pas, il y a plus de risques de rechute.
Et donc, il faut être attentif et s'impliquer dans le traitement en même temps que l'enfant qui fait des efforts.
Tout à
fait.
Exactement.
Voilà.
Ouais.
Très bien. Donc, il faut être présent et bienveillant avec l'enfant. C'est ça le principe.
Bon, c'est écoutez, très bien dit, oui.
Merci beaucoup Agathe Pula-Cabola pour cette conférence. C'est vraiment très, très bien. Merci de nous rassurer en tant que parents et nous savons maintenant quoi faire et avoir confiance si notre enfant bégaye. Alors, je rappelle que le titre de votre livre, c'est « Je bégaye, 3 points de suspension, laissez-moi parler » aux éditions du CHU Sainte-Justine.
Oui.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci. Maintenant, nous allons enfin avoir le billet de Camille Chai.
J'adore.
La co-animatrice. J'adore ça. Mais j'adore tes billets.
Mais c'est parce que tu es gentil avec l'entrain avec lequel tu annonces mes billets. Ça
attends.
Fait vraiment plaisir.
Je les attends.
Écoute, aujourd'hui, je m'inspire un peu du sujet dont on a parlé aussi un petit peu plus tôt au niveau de la résilience. Ça me fait penser, en fait, j'aime bien toujours vous partager vraiment des choses, oui, que j'ai vécues, mais qui me fascinent en même temps, encore une fois, dans le comportement humain. À quel point, là, j'ai envie de vous parler de mon grand-père, entre autres, qui était donc cambodgien. Et mon grand-père, en fait, pour vous donner une petite idée du contexte, ils ont vécu la guerre, donc du Cambodge, de 1975 à 1979. Et quand on parle de résilience, à quel point, oui, il y a des choses dans la vie qu'on va vivre, puis même pour faire le lien avec Agathe, qui est toujours avec nous en studio aussi, le fait de bégayer, ça arrive comme ça, on ne l'a pas nécessairement demandé non plus, puis c'est pas que je veux comparer le bégaiement à avoir vécu la guerre, mais c'est dans notre capacité en tant qu'être humain à pouvoir justement rebondir ou... accepter, on en parlait tout à l'heure, accepter une situation qui peut être dérangeante ou souffrante. Ça me fascine à quel point de savoir que, par exemple, mon grand-père qui a vécu la guerre donc, dans ce pays a dû quitter avec toute sa famille, donc avec mon père et ses deux sœurs. Et malgré cette difficulté, ce traumatisme énorme, il a quand même décidé de retourner vivre dans ce pays des années plus tard. Même si, oui, le traumatisme, le souvenir était en lui, c'était important de retrouver ses racines. Et
c'est bénéfice-risque, là.
Oui, mais c'est pour...
C'est
tu
terrible,
vois?
Hein?
Oui, c'est
ouais,
terrible.
Bah oui.
C'est quand même pas rien. Et à quel point il m'avait raconté que dans son nouveau chez-soi, donc il était retourné au Cambodge, effectivement, il gardait dans un tiroir dans sa chambre, toujours, son passeport et une enveloppe qui contenait 1 000 $.
De quoi partir tout de suite?
De quoi exactement, François? Parce que tu vois à quel point il veut revenir, mais il a développé donc cette résilience de réaccepter de revenir dans le pays, mais au cas où ça réarrive...
Il veut être prêt cette fois-ci à partir
tout de suite.
Il veut être
prêt à pouvoir repartir.
Mais c'était quand même un syndrome post-traumatique puisqu'il a fait la guerre. Donc en plus, il a une résilience, non seulement parce qu'il a subi ça avec sa famille, mais en plus, il a eu un syndrome post-traumatique. Il réussit, il revient.
Tout de même.
Il faut vraiment avoir un projet... impressionnant quand même.
Oui.
Un projet
oui.
de vie étonnant.
Mais voilà, moi en tant que petite fille, ça me fascine et en même temps j'ai cette gratitude, ça fait partie de mon histoire. Voilà, c'était un petit clin d'œil sur la résilience. Et c'est ce qui met fin à notre émission. Alors on remercie Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Catherine Bourderon, recherchiste, Mathieu Guérette qui était notre coup de gueule, qui a fait le coup de gueule, Éliott Boulat pour la chronique historique.
toi-même, François Baruel. Merci d'être de mon co-animateur.
Merci, Camille.
Et merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est bon pour la santé.